prédicateur, pasteur, Alain Ouvrard. Thème du message, dans leur cœur, l'éternité. Première partie.
Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop malade, parce qu'il y a beaucoup de malades en ce moment. Hein. Voilà. Enfin, le Seigneur est là pour nous faire du bien ce matin. Et je voudrais tout simplement que nous ouvrions notre Bible dans un livre qui quelquefois reste un petit peu méconnu. C'est le livre de l'Ecclésiaste. Livre de l'Ecclésiaste. Ça se trouve après le livre des Proverbes, si vous voulez bien. Et là, nous allons faire une première lecture. Voilà. Je rappelle, livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24, dans un premier temps. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent dans le chapitre 3. Simplement une phrase au verset 11. Il fait toute chose belle en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Toute la Bible nous dit que l'existence sans Dieu n'a pas de but, elle est vide. Et elle est sans valeur. Nous en sommes convaincus en tant que croyants. L'auteur de ce livre de l'Ecclésiaste, vraisemblablement, est cet homme qui est bien connu dans la Bible, le plus grand roi d'Israël, Salomon. Et Salomon aborde le sujet avec un certain pessimisme, parce que vous avez lu hein, le livre de l'Ecclésiaste. Il y a des choses, quelquefois, quand on lit ça, on se dit, mais... c'est assez particulier parce qu'il semblerait que ce qui est écrit contre Dieu, quelque part comme si Dieu n'existait pas. Alors, c'est vrai que les choses sont présentées, vous allez voir pourquoi. Il y a comme une note de pessimisme, voire scepticisme. Il faut mettre les mots au bon endroit, voilà. Ou alors voire même de cynique, ou de cynisme, voilà, plutôt. Alors, nous avons Salomon qui va explorer la vraie signification de la vie, parce que c'est ça, pour décoder, il faut naturellement avancer un peu et ne pas s'arrêter aux premières impressions que ce livre nous donne, parce qu'on peut dire, on va mourir. Et c'est vrai, mais il y a derrière tout cela, un formidable message. Et nous voyons, et nous l'avons lu il y a un instant, ce Dieu de la Bible, ce Dieu de l'invisible, figurez-vous, a laissé un signe. Il a laissé un signe, il a laissé une trace, il a laissé en quelque sorte une semence à l'état quelque part embryonnaire dans le cœur, c'est la pensée de l'éternité. Et nous avons, pour mieux comprendre ce que peut nous dire Salomon dans ce passage, c'est de prendre en considération à la lecture de ce livre, je vous dirai tout simplement en deux choses, la vie qui est vue par un incrédule ou un incroyant et la vie qui est vue par un croyant, un homme de foi. Et ça change tout. Et c'est vrai que Salomon nous laisse l'impression qu'à un moment donné, eh bien, on a du mal à se situer parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il croit en Dieu encore? Parce que, à l'écouter ou à lire ses paroles, on se pose la question, mais il le fait, je pense, volontairement et sciemment pour nous amener, comme Jésus le fera avec la Samaritaine, l'amener à décoller quelque peu de son matérialisme, de son environnement, de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent, pour véritablement s'élever dans les dimensions spirituelles. Alors voilà la clé, en quelque sorte, qui ouvre la porte de la compréhension de toute la Bible d'abord, et puis du livre de l'Ecclésiaste en particulier. Et vous savez que le mot « Ecclésiaste » veut dire tout simplement « prédicateur ». Voilà, celui qui enseigne, prédicateur. Le premier point de vue pourrait se résumer ainsi, que nous trouvons dans un psaume, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Alors, on n'a pas besoin d'aller très loin pour constater, finalement, eh bien, qu'autour de nous, beaucoup de gens pensent que Dieu n'existe pas. Et la Bible retourne la chose en disant, si vous pensez comme ça, eh bien, vous êtes fous et insensés parce que Dieu existe. Paul ira nourrir cette pensée en disant, mais les hommes sont inexcusables puisque la grandeur, la divinité, la splendeur de Dieu se voit comme à l'œil nu lorsqu'on le considère dans ses ouvrages. Et il y a un grand livre autour de nous qui est le livre de la nature qui doit nous introduire à lire finalement le livre des livres qu'est la Bible et qui nous révèle qui est Dieu. Qui est Dieu et ce qu'il veut. Parce que ça c'est une affirmation de l'insensé qui pense que Dieu n'existe pas, c'est une affirmation lorsqu'on est renfermé dans un univers purement matérialiste. Parce qu'autrement il n'y a pas d'autre horizon que celui que nous avons devant les yeux, en regardant en haut, c'est le ciel, et il semble vide, et puis l'infini autour de nous, c'est-à-dire tout simplement eh bien, jusqu'où peut porter eh bien, notre regard. L'univers matérialiste. Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, il est roi. Et c'est un homme qui est privilégié par la vie, parce qu'il a pu goûter à tout ce que l'existence peut offrir à un homme. Je me demande aujourd'hui, si Salomon vivait à notre temps, qu'est-ce qu'il dévorerait encore Parce que les possibilités de son temps étaient, pour le temps, quelque chose, alors aujourd'hui. Mais je pense qu'il reflète, Salomon, eh bien, l'idéal du bonheur humain. Et il a écrit beaucoup de choses, parce que c'était quand même, somme toute, un homme très intelligent, observateur et pas mal de choses, sauf que finalement, eh bien, il a raté complètement la sortie. Il a bien commencé, mais il a raté lamentablement sa sortie, et il lui manquait l'intelligence. Ou il l'avait, mais il l'a perdue. Parce que ça, c'est vrai. Il l'avait quand Dieu l'a appelé, finalement, à monter sur le trône. Alors, Salomon, en promenant ses regards sur la vie, d'abord la sienne, qu'il avait perdue de vue au bout d'un certain temps, dans sa vieillesse, et puis celle des autres, alors il en vient à la conclusion que vivre est une pure perte de temps. Ce qu'on appellerait une vanité. Une pure perte de temps. Je ne sais pas si vous partagez l'analyse de Salomon, mais de toute façon, on est dedans, hein, il faut y rester. Elle est bonne ou elle est mauvaise, mais il n'y a pas trop le choix, mais il en vient à cette conclusion. C'est pour ça qu'il y a un caractère un peu pessimiste. Que là, quelquefois, ça vient même du cynisme chez Salomon. Cela, se dit-il, ne rime à rien et n'a ni sens ni but. Je vis, je consomme, je mange, je bois. Il n'y a de plaisir et de bonheur qu'à manger et à boire. Voilà ce qu'il en tire. Du début jusqu'à la fin, tout se révèle aux yeux de Salomon comme tristement temporaire, transitoire et éphémère. Parce que avant lui, il y avait des hommes, et après lui, il y en aura d'autres. Et lui disparaîtra, tout simplement. Alors, pour souligner sa conviction, le roi Salomon utilise le superlatif que nous connaissons bien, « vanité des vanités et poursuite du vent ». Le mot « vanité » dans le livre de l'Ecclésiaste revient plus de 25 fois. Vous pourrez le contrôler si vous voulez. Et quand il dit cela, nous touchons du doigt à ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui en dehors de la connaissance ou de la relation avec Dieu, une déprimante réalité quotidienne. C'est-à-dire qu'on se dit, mais Ça a quel sens tout ça? Vivre, manger, boire, ceci, cela, et puis qu'est-ce qu'il y a après? Et c'est vrai que nous vivons dans une société qui a quand même un fond de morbidité. Et puis de société dépressive. Et on le voit autour de nous, hein, les choses sont visibles. Alors, Salomon, après avoir pris les choses en considération, va tourner les yeux vers autre chose. Il va dire, mais je veux regarder maintenant vers les activités de cette vie terrestre. Alors, il va se donner les moyens. Il est roi, il est riche. La ville de Jérusalem est la capitale d'un empire. Alors, il va se faire des jardins. Il va se faire des plantations. Il va développer sa force militaire. Il va se construire des palais. Il va construire le palais de l'Éternel, son Dieu. Le palais de la maison du cèdre du Liban. Et puis, toutes sortes de choses comme ça. Alors, et là encore, après avoir s'être livré jour et nuit à des activités incessantes, colossales même, on pourrait dire, il en conclut, à quoi bon travailler péniblement toute sa vie, 40, 60, 62 ans, bientôt 68. Je vous dis ça, c'est pour vous rassurer. Pour si peu gagner, et puisque finalement, eh bien là, l'homme perdra tout. Et c'est vrai, parce qu'on peut bien avoir construit un empire, on peut bien avoir réussi dans bien des domaines, dans un succès ou dans un autre, mais de toute façon tout cela on ne l'emmènera pas. Alors il en vient à tomber vraiment dans une... Il m'a dit, mais je me suis éreinté, je me suis fatigué, je me suis là donné corps et âme, et j'ai fait travailler des milliers de gens avec moi, hein, parce que bon, c'était tout un peuple... Et on arrivait là pour en arriver à dire, mais bientôt, je vais quitter tout cela, naturellement. Et c'est vrai qu'il pose une réflexion quand même importante, c'est que le fruit de nos efforts nous échappe. Et il sera, et ça c'est le drame, il sera peut-être eh bien, dilapidé tout simplement par quelqu'un, son successeur, son fils, d'une manière ou d'une autre, qui n'en aura jamais compris la valeur. Et après des années, des décennies de travaux, de voir quelqu'un qui arrive derrière vous et qui met tout en l'air, qui dilapide tout, et qu'est-ce qui reste de tout cela? C'est terrible. Il peut y avoir une satisfaction d'avoir construit, d'avoir bâti, d'être admiratif devant, finalement, eh bien, ce que Dieu nous a donné de faire, mais et de savoir que celui qui arrive derrière, lui tiendra pas compte de ça. Il verra que tout est facile. Il ne connaîtra pas la mesure et la peine. Pourquoi? Les choses, il ne comprendra pas. Et en un instant, tout disparaîtra. Ça arrive assez souvent, ça, hein, malheureusement. Donc ce sont des réflexions encore. De là, Salomon, comme il l'a déjà dit, entrevoit tout le problème de l'éphémérité de la vie humaine. Et il conclut, on vit seulement un peu de temps et l'on meurt. Ça, c'est l'aboutissement, hein, c'est facile à saisir. La scène terrestre demeure, mais les acteurs se succèdent. Parce qu'il y a bien des choses qui vont rester derrière nous. Notre monde est fait de vestiges. Si l'on regarde du côté de l'Antiquité, si l'on regarde ici ou là, on s'aperçoit, mais les hommes disparaissent. C'est tout ce qu'il peut finalement, eh bien là, eh bien, demeurer. Et les hommes ne cessent de réinventer le monde. Ça revient. Et en fait, de réinventer le monde, il y a ce texte qui nous dit ceci. Je le lis, c'est le chapitre 3, une partie. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, on l'a déjà dit. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades ou des embrassements, comme vous voudrez, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a là sept antithèses. Et ça nous est présenté de telle manière que ça s'inscrit tout à fait dans la philosophie du livre de l'Ecclésiaste. Eh oui, On réinvente le monde à chaque fois. Des choses disparaissent, d'autres apparaissent. Et c'est vrai qu'on peut peut-être considérer que nous vivons dans un temps où il y a eu de grands bouleversements, de grands changements par rapport, eu égard à ceux qui nous ont précédés, qui ne se reconnaîtraient pas dans le monde. Hein, tombera à la renverse en disant, mais et peut-être que nous n'avons pas tout vu. Alors, dans le vaste et mystérieux domaine de la vie morale, parce qu'il faut en parler, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de progrès réel. Peut-être dans les choses matérielles, ce que l'homme est capable de bâtir, de faire, mais dans le domaine de la vie morale, est-ce qu'il y a vraiment un progrès? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se dire, eh bien, l'homme devient meilleur. L'homme fait des choses qui n'ont jamais été faites. L'homme s'élève. L'homme s'améliore. La question, elle est là. Plus le monde découvre, moins, finalement, il arrive quelque part. Oui. Notre Terre ne nous suffit pas pour découvrir. Aujourd'hui, nous sommes dans la dimension spatiale. Alors on ne va pas très loin pour l'instant. Mais la conquête est certainement très enthousiasmante. Mais toujours est-il qu'on s'aperçoit qu'on arrive à un moment ou à un autre au bout du bout, en pensant que nous avons tout compris et tout acquis. Et puis, ben, il faut tout remettre sur la table parce qu'on en est encore très loin. Alors, cet homme-là, il crée sans cesse, il invente, il réinvente. Et puis on s'aperçoit que sa civilisation n'est pas meilleure que les précédentes, parce qu'il y a des problèmes qui subsistent. Il y a des choses récurrentes qui sont là au fond de l'homme, au fond des sociétés et des civilisations qui n'ont jamais trouvé de réponse. La philosophie approche. Les techniques des hommes s'améliorent peut-être. Mais c'est toujours pour repousser les limites, les frontières. Et on va toujours de plus loin. On court comme après un mirage. Et essentiellement, eh bien, on en est toujours au même point. On a toujours regardé l'Antiquité et puis les temps passés comme le comportement des hommes cruel. C'est vrai que dans le temps, ils se battaient à l'arme blanche. Mais aujourd'hui, on se bat par missiles interposés et je peux vous dire que les dégâts sont tout autres. Quand on n'y ajoute pas l'industrialisation de la mort, quand on n'y met pas une dose de perfidie et de haine diabolique. Ça a toujours été, naturellement, mais ça prend des proportions. Hein. Alors le cœur de l'homme ne varie pas dans le mal. Et ça, c'est justement l'aspect moral. Parce que il semblerait plus ils sont intelligents, plus ils découvrent aussi des nouvelles possibilités d'augmenter, d'accroître le mal. On le sait. Alors peut-être que l'homme d'aujourd'hui est plus puissant, plus intelligent, il calcule. Il est peut-être moins instinctif, moins spontané, épidermique, mais il est plus redoutable, parce qu'il se confie dans une technologie que l'on pourrait nommer aujourd'hui de technologie avancée, mais il est encore plus destructeur que dans le temps, en tous les cas en quantité, en précision. L'homme se donne une technologie, donc, il se donne une activité incessante qui ne s'élève jamais au-delà de l'horizon matériel. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose qui lui est inaccessible. Et vous savez comment ça s'est fait. Vous savez, les chérubins qui ferment la porte du paradis terrestre. Vous savez ce paradis perdu que l'on recherche d'une manière ou d'une autre. Mais là, on ne peut pas. Il n'y a qu'une porte pour cela. Et cette porte, on la connaît, elle porte un nom, c'est Jésus. Naturellement. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails sur ce sujet. Alors son horizon, c'est tout simplement, c'est une philosophie, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit que l'on pourrait qualifier de mondain, de terrestre, d'humain, de naturel. Il n'y a rien à dire par-dessus tout ça. Et ça nous est résumé tout simplement par le prophète Ésaïe quand il dit « Mais mangeons et buvons parce que demain, assurément, nous mourrons. » Et le chrétien a réfléchi et pense d'une autre manière, naturellement. Demain, eh bien, nous mourrons. Pour nous dire que tout simplement nous sommes prisonniers d'un cycle épuisant et sans fin, le même mot revient toujours, c'est vanité. Vanité et poursuite du vent. Dans les premiers textes du livre de l'Ecclésiaste, il nous est dit que l'œil est insatiable de regarder, à moins qu'on le devienne aveugle. Mais l'œil que Dieu a planté dans la tête de l'homme, c'est quelque chose d'irrépressible. Il veut voir, il court le monde pour voir, pour découvrir, pour dire « eh bien j'ai vu ». Et puis l'oreille, elle n'est jamais lasse d'écouter, d'écouter des bonnes choses, mais aussi d'écouter, de se nourrir de mauvaises choses. Alors ni l'un ni l'autre, ni l'œil ni l'oreille, ne connaît de véritable satisfaction. Il y a l'illustration de cette femme qui s'appelle la Samaritaine, rencontrée par Jésus à un puits sans fin et sans fond, qui lui dira « écoute, au lieu de regarder au fond de ton puits, dont tu ne sortiras jamais, écoute ce que j'ai à te dire. Parce que le don de Dieu, eh bien il est pour toi. Regarde au-dessus de ta tête. Il y a un soleil que tu n'as jamais vu briller. Parce que ton cœur, il est terne. Il est dans la médiocrité. Tu reposes là, au fond d'une étable, malheureuse que tu es. » Alors, on comprend que tout cela, eh bien, ça ne peut pas apporter la vraie satisfaction. Écoutez, nous vivons dans un temps quand même où il y a des possibilités. Vous vous rendez compte, on peut, en 24 heures, on peut être aux antipodes. On peut vivre toutes sortes de choses, chacun selon sa fortune, naturellement, mais il y en a pour tout le monde, si on sait gérer son argent ou son économie. Il y en a pour tout le monde. Si je ne voyage pas, je peux regarder quand même des beaux reportages à la télévision. Si je ne fais pas un safari, il y a quand même aussi de quoi m'imaginer ce que peut être la forme d'un éléphant ou d'un lion. Hein. Toutes sortes de choses que les anciens n'avaient pas. Enfin, les très anciens. Je dis, on est dans un monde tout à fait particulier. Mais les gens regardent, et puis sont-ils satisfaits? Tout passe, tout lasse, tout casse. Regardez ces phénomènes de spectacle dans notre monde aujourd'hui. Que ce soit le spectacle privé à travers les fenêtres qui sont dans nos maisons, ou que ce soit tout simplement le cinéma ou autre chose, ou le théâtre, et toutes sortes de choses de distraction. On y va, parce qu'il y a eu de la publicité de fait, on en revient, et puis on se dit « oui ». La publicité est toujours en surenchère, hein, je tiens quand même à vous le dire. Puis une fois qu'on a fait, on a consommé, c'est comme après un bon repas, on a dit on n'a plus faim. Puis finalement, il faut recommencer après. Je ne dis pas que c'est mal, je ne porte pas un jugement de valeur sur cela. Mais je veux dire que c'est le phénomène de l'insatisfaction. Et je voudrais quand même dire que ça atteint les hommes du monde entier. Mais est-ce que parfois, nous en tant que chrétiens, nous ne serions pas tombés dans une certaine insatisfaction de consommation ? Et de dire, oui, c'est bien, on est content. Mais demain, j'aurai une autre soif. J'aurai encore un autre appétit. J'aurai encore besoin d'autre chose pour arriver toujours au même résultat. Je ne juge pas. Mais je dis qu'on a peut-être besoin, finalement, de réfléchir à ce que nous dit le livre de l'Ecclésiaste. Et c'est vrai que la vie se déroule monotone, et plus il semblerait qu'elle soit occupée, préoccupée, remplie, plus finalement la monotonie se fait sentir. C'est un phénomène, ça. Hein. Et parfois, eh bien, ça tourne à la frustration. Il n'y a jamais eu autant de gens frustrés, parce qu'ils peuvent avoir leur part, mais quand ils regardent la part des autres, ils disent « moi je le veux aussi ». Et ils ne peuvent pas y arriver, ils ne peuvent pas atteindre. Ça les fait rêver, ça les fait gamberger, ça les fait fantasmer. Et là, ils vont tomber en disant « mais j'y arriverai jamais parce que je n'ai pas les moyens d'y arriver, je n'ai pas la possibilité ». Et on s'aperçoit qu'on vit dans une société de frustration terrible. Et les gens sont malheureux. On est loin de cette parole de Paul. Ah oui, on est loin. Hein. Quand il dit « mais si nous avons le manger, le boire et le vêtement, cela nous suffit ». Je vous renvoie à la proposition de Paul. Eh oui, mais on va voir qu'à la fin, c'est quand même autre chose. On va le voir tout à l'heure. La frustration qui engendre toutes sortes de choses. Parce que la frustration, elle est quand même, elle est vecteur de jalousie, d'envie, parfois de méchanceté, de réparties qui sont véritablement des paroles assassines. Hein, et puis toutes sortes de choses. De colère. Frustration de ne pas pouvoir goûter à tout, de ce qui nous nourrira jamais vraiment. Jésus l'évoque quand il dit, mais il travaille pour une nourriture qui n'est pas de ce monde, une nourriture qui est celle du ciel. Surtout que nous vivons quand même dans une société d'actes répétitifs, et on finit par se lasser de tout ça. Et puis la nature, on a vu la vie morale, la nature ressemble à une grande mécanique. Vous savez ça, hein ? Quelquefois elle se dérègle, hein ? Quelquefois elle est grippée, la nature, hein ? On peut dire ça comme ça. Une grande mécanique infinie. Le soleil, le livre de l'Ecclésiaste nous en parle, il nous parle des vents, il nous parle des fleuves, qui reviennent toujours où ils sont partis. Ben alors il se passe tout un cycle, hein ? Voilà. Notre grand fleuve, là, à côté de chez nous, il a fait un cycle. Il est parti juste à côté, peut-être à 10 kilomètres. Il est monté au ciel. Et puis, il a fait tout un périple. Et puis, il est allé, je ne sais où. Hein, enfin, si, on sait où c'est. Et puis, voilà, qu'ensuite, un petit filet d'eau, un torrent, une rivière, et puis un fleuve qui se jette tout à nouveau. Et ça continue depuis des siècles et des siècles. Hein. Il y a peut-être des modifications géographiques, mais le système que Dieu a mis en place, il ne bouge pas, lui, hein. Oh, il y a quelquefois des écarts, hein, ça c'est certain, ce que l'on appelle des séismes, toutes sortes de choses, mais ça reste toujours pareil. Alors quand je considère cela, je me dis, c'est curieux, l'histoire maintenant, l'histoire de l'homme, l'histoire n'apprend rien, puisque trop souvent, sous une forme ou sous une autre, le problème crucial, c'est que, le problème récurrent, c'est que les hommes refont les mêmes choses. Bien qu'ils se disent, à la suite d'une histoire dramatique, on ne refera jamais pareil. C'est la dernière des dernières. On ne refera pas cela. Et il semblerait qu'on ne tient pas compte des leçons. On ne tient pas compte des erreurs. On a inventé beaucoup de solutions secondaires, mais jamais résolu définitivement le problème essentiel qui nous touche tous. Le mal, les uns et les autres. Et l'homme essaie de gérer le mal, on gérait tant bien que mal. Regardez les lois, regardez les dispositions qui sont prises actuellement dans cette période que l'on appelle crise, mais le monde en a connu de plus dangereuses et de plus difficiles des crises. On dit la crise, parce que bon, on ne connaît pas, nous on n'a pas vécu, mais la crise elle est là, c'est sûr qu'elle a sa réalité, elle a sa raison d'être et tout cela, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne va pas au fond du problème, parce qu'on ne peut pas atteindre le cœur même du réacteur, on pourrait dire, hein, et on ne sait pas arrêter le feu. Alors ça continue. Tous les hommes sont pleins de bonne volonté. Quand ils ont compris une leçon, quand ils sont passés par une affliction et une épreuve, ils se disent maintenant, j'ai compris. Et puis on s'aperçoit que le temps passant, l'histoire balayant tout cela, sous un autre aspect, on refait la même chose et on recommence. Qu'on ne s'imagine pas, si nous avions peut-être l'idée, que même notre passage ici-bas, c'est-à-dire notre vie d'homme, personnellement, laissera une marque indélébile sur les sables du temps. Ça, je peux vous dire que, de toute façon, on le voit d'ailleurs, hein, comment les noms, comment les familles, comment les gens disparaissent. Vous savez, dans 50 ans, qui se souviendra de nous ? Peut-être encore, parce que dans 50 ans, ça sera les arrière-petits-enfants. Hein. Mais qui se souvient encore des gens qui ont vécu à la fin du 19e siècle ? C'est pas si loin que ça. Il n'y a plus personne du 19e siècle maintenant ici, là, non ? Non. Mais il y en a encore du début du 20e siècle, n'est-ce pas ? Mais vous savez, on passe vite. Hein. Qui se souvient ? Alors on fait des commémorations, on fait des monuments aux morts, on met des plaques dans les cimetières pour dire « il ne faut pas oublier ». Mais on est oublié. Et on passe vite. Mis à part quelques personnalités, quelques hommes de fait ou de haut fait, qui ont marqué peut-être parfois plus souvent en mal qu'en bien, alors on va laisser peut-être, mais tout ça, ça retourne comme le livre de la Genèse nous le dit, poussière qui retourne à la poussière, alors tout ça va être effacé sur les sables du temps, et la prochaine vague va effacer vite nos pas, comme elle a effacé naturellement celles qui nous ont précédés. Je disais dernièrement que, mis à part nos parents, nos grands-parents, qu'est-ce que l'on a ? Arrière-grands-parents, parce que la vie se prolonge aujourd'hui, mais vous savez, pour nos petits, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, qui vivent encore dans la même société, tout ça, ça va. on n'a pas un grand souvenir. Et de quoi se souviendront peut-être nos arrière-petits-enfants de ce que nous avons été, de ce que nous sommes. Ouais. Ne vous faites pas d'illusions, hein. Mais c'est comme ça, c'est tout. Et c'est ce que Salomon nous parle quand il dit « mais poursuite du vent ». Mais attendez, ce n'est pas si négatif que ça, j'y arrive. On ne vivra pas longtemps dans la mémoire hein, des autres, parce que le souvenir, eh bien, passe. Cela s'appelle l'existence. Je dis bien l'existence qui a donné cette philosophie que l'on appelle l'existentialisme, qui a été tellement dite, rabâchée, écrite, poinçonnée, enfoncée dans la tête et dans le cœur des gens au XXe siècle. Et l'existentialisme, c'est synonyme de futilité, car en fin de compte, tout n'aboutit à rien. À rien, tiens, pour celui qui ne croit pas. Et qui croit pouvoir garder quelque chose. Alors, la vie est-elle réellement vaine? Je vous pose la question, vous allez me dire, non, ma vie n'est pas vaine. Elle a un sens. Et elle a un sens pourquoi? Ne referme-t-elle pas une signification autre que l'immédiat? Parce que dans cette existence dont nous parlons, dans la vie, il y a deux dimensions. Il y a l'immédiat et il y a le permanent. Et je crois que, en répondant à l'appel de Dieu, nous avons misé beaucoup plus sur le permanent que sur l'immédiat. Nous avons pris l'option de l'invisible sur le visible. Et ça, ça change tout. Parce que si nos yeux sont fixés uniquement sur le visible, alors là, il y a un problème. Puisque tout ce que la Bible nous propose vient de l'invisible, qui est une réalité. Réalité voilée, obscure, cachée pour nous, mais qui va devenir la plénitude pour ceux qui ont quelque chose dans leur cœur et qui ont bien compris que Dieu a mis en eux la pensée de l'éternité. Est-ce que tout serait vraiment dépourvu de sens? Sinon, s'il y a quelque chose, quel est son sens? Quelle est sa signification? Quelle sorte de vie vaut la peine d'être vécue? Où et comment trouver la réponse? Et c'est là où notre auteur, Salomon, va nous livrer la solution, et vous la connaissez déjà naturellement, mais on va essayer de la voir et de l'appréhender à travers trois points de vue. Le premier point de vue, c'est celui de l'homme de foi, radicalement opposé à la première conception. Si Dieu appartient à notre vie, il y a un but dans l'existence. À la lumière de la foi de Salomon, eh bien, lui-même en tire trois conclusions. La première conclusion, nous allons la relire, c'est le verset 24 et 26, où il est dit simplement ceci. « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. » Point. Ou point virgule. Mais attendez, il n'a pas fini, hein, la phrase n'est pas terminée. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Alors, qui en effet, peut manger, jouir, si ce n'est moi. Il parle de lui, hein. Comme nous. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Vous vous rendez compte que les hommes qui ne croient pas en Dieu travaillent pour nous? Et ils ne s'aperçoivent pas, parce que s'ils savaient, je peux vous dire qu'ils arrêteraient le provisionnement. Ils ne le savent pas. Ça, c'est extraordinaire. Ah, vous dites quelquefois, mais les gens là qui sont autour de nous, ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas la Bible, etc., etc. Mais ils vous servent. Et Dieu se sert d'eux pour vous bénir. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Et moi, ce que j'en lis, hein, c'est tout. Hein. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Vous vous rendez compte? C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Sans Dieu, il n'y a pas de vraie et durable satisfaction. J'ai vu, nous dit Salomon, que cela vient de la main de Dieu, et il donne à l'homme le bonheur, le manger, le boire, la jouissance, le confort, le bien-être, la sagesse, la science, tout ce que vous voudrez, eh bien, ne viennent pas de nous-mêmes, mais de la grandeur du donateur. Et figurez-vous que c'est Paul qui nous en parle alors qu'un jour, il est en train de faire une prédication dans une ville hautement païenne, la ville de Lystre. Et vous savez ce qu'il dit ? La substance même de son évangile à des païens. Il va ramener les choses, non pas en haute théologie, hein, mais basique, tout simplement. Et il dira ceci, chapitre 14, je vous restitue le texte, tout simplement. Le verset, par exemple, 17, hein, on l'a étudié il n'y a pas très très longtemps. Il dit ceci en parlant à ces hommes, qui sont des idolâtres, qui ne, voilà, il dit, nous vous exhortons à renoncer à ces choses pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Car ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en vous faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Merci Seigneur, que tu fais briller ton soleil sur les bons comme sur les méchants. On a du mal à comprendre, nous les chrétiens, comment le monde ne se mettrait pas à genoux pour adorer le Seigneur. Hein. Et pourtant, ils ont la pensée de l'éternité. Ils ont le grand livre de la nature ouvert. Il n'y en a qu'un qu'ils ne veulent pas ouvrir, c'est celui-ci. Ça les dérange. Ce n'est pas de croire en Dieu qui les dérange. C'est de changer de vie pour la gloire de Dieu. Ça pose problème. Et évidemment, on peut comprendre pourquoi. Vous avez remarqué que dans ce petit texte, il y a la répétition 3 fois du mot « donner ». Parce que finalement, pour Dieu, c'est le mot fondateur, c'est le mot essentiel, c'est le dénominateur commun à tout ce message et ce plan de salut. Donner, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et toute la Bible s'est donnée. Et au prix même du sacrifice, du plus grand, de l'ultime, du sublime sacrifice, donner. Dieu a donné. Quand il a créé, il a donné. C'est le don qui est essentiel. Vous voulez vivre ? Donnez. Donnez-vous. Partagez. Communiquez aux autres. C'est ça, vivre. Le contraire, c'est l'égoïste. Tout pour moi, et vous connaissez la parabole dans Luc, ce brave homme qui a fait fortune et qui se dit, mon âme, maintenant t'es tranquille, t'as bien travaillé, tu as travaillé honnêtement, je ne mets pas en cause, mais maintenant, allez, réjouis-toi. Mange, bois, et puis voilà. Hop. Il s'y attend pas. Il y a une voix qui lui dit, tu sais, tu vas te coucher ce soir, mais tu ne travailleras pas demain matin. Alors, pour qui cela sera-t-il ? C'est la vanité. Et ne soyons pas, en tant que chrétiens, des gens qui pensons comme ça. Parce que c'est terrible de vivre uniquement dans une limitation, dans une restriction de notre vision. Vous savez que l'éternité nous appartient et le monde infini nous appartient aussi. Et là, ça va être un petit peu plus large que chez nous. Il va y avoir une autre dimension, ça c'est sûr. Le bonheur n'est pas inhérent à l'homme, parce qu'il nous est dit qu'il donne à l'homme qui lui est agréable. Et pour être agréable à Dieu, ça nous renvoie tout simplement aux Hébreux, il nous est dit que, or, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Voilà, ça, la Bible se répond par elle-même, tout simplement. Et nous voyons que tout concourt à l'avantage, à la bénédiction, à la faveur, à l'enrichissement, à l'abondance de ceux qui bénéficient, finalement, de la grâce et de la faveur de Dieu. Dans un psaume, il y a cette parole qui est écrite par David. Vous le connaissez ? Il y a des gens qui s'expriment et qui disent « Mais qui nous fera voir le bonheur ?» Ça, c'est le cri universel d'aujourd'hui. Hein. « Qui nous fera voir le bonheur ?» J'espère que les chrétiens ne disent pas la même chose. Parce que vous savez qui vous fait voir le bonheur. Et si vous l'avez vu ainsi et que vous ne le reconnaissez pas, il y a quand même un problème là, de ce côté-là. Parce qu'il n'y en a qu'un qui peut nous donner le vrai bonheur. Il n'est pas extérieur, il est intérieur. Il ne procède pas des choses de l'extérieur, mais il procède de cette pensée de l'éternité qui s'est développée. On a entendu une prophétie où il était question de croître et de se développer. Eh bien, ça tombe tout à fait dans le sens de mon message ce matin. Il donne aux pécheurs. Celui qui veut compter sans Dieu, s'oppose à Dieu, eh bien, ne peut compter que sur ses propres forces. Et il verra combien il est petit. L'homme est petit. L'homme est un nain à côté de la grandeur infinie de Dieu et de ses possibilités, de son amour. Et c'est pour ça que nous pouvons rajouter que l'homme qui compte sur ses propres forces pour être heureux, c'est là une vanité et poursuite du vent. Tout ce qu'il amasse ne lui profitera pas réellement, durablement et paisiblement. Parce que vous savez, vous écoutez quelquefois le témoignage de gens qui ont amassé, qui ont gagné, qui ont peut-être là construit des empires. Et on s'aperçoit tous, unanimement, qu'ils ne sont pas heureux. Vous savez, quand on regarde un petit peu, quand on prend la mesure de toutes les sagas, est-ce que je veux dire sagas familiales et tout ça, elles sont toutes empreintes de mort, d'assassinat, toutes sortes de choses. Le monde est triste. Le monde est triste sans Dieu. Vous allez me dire que je fais de la dépression. Moi, je ne suis pas déprimé, je tiens quand même à vous le dire. Non, mais... ouais. J'ai eu l'occasion dernièrement, je vous le dis, je vous le partage, c'est simplement parce que quelquefois, c'est bien de s'intéresser à l'histoire. Et j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains un document sur 50 ans de société française, de 49 à 99. Et ce sont tous les événements économiques, au niveau politique, sociaux, tous les phénomènes de la société, tels que, bon, je cite 68, etc., etc. Puis tous les gens qui ont brillé pendant ces 50 ans, des artistes, des comédiens, enfin des chanteurs, etc., etc. Ce que je disais à mon épouse, en conclusion, c'était un volume, il était comme ça, et je passe pas mon temps qu'à faire ça, De temps en temps, j'ouvre la Bible. Mais ça me permet quand même d'avoir un petit regard sur autre chose. Et ça me confirme dans certaines pensées. Et je me disais, mais le monde est triste. Ils finissent tous par l'accident, ils finissent tous par le suicide, ils finissent tous par toutes sortes de choses. Mais c'est déprimant, c'est toujours le même cycle. Vous savez pourquoi ? Ce qui motive les gens, c'est la gloire d'eux-mêmes. De briller, de dire, eh bien moi, j'ai paru à telle époque et j'ai été une petite étoile dans ce monde. Mais c'est pas d'être une étoile dans ce monde qui compte, c'est d'être une étoile dans le ciel. Ça, c'est autre chose. Et c'est vrai que ça vous remonte pas le moral quand vous voyez les catastrophes, les accidents et toutes ces choses qui ont endeuillé, qui endeuillent encore le monde d'aujourd'hui, parce que finalement ça s'arrête pas, ça continue. On se dit, mais quelle tristesse. Et y aurait-il pas une espérance autre chose que ce que nous donne comme nourriture le monde? Et attendez, on n'a pas tout vu. Parce qu'on est en train de préparer une génération et un autre temps. Alors il donne aux pécheurs, c'est vrai, c'est une vanité de ce que le pécheur en fait. Ne nous y trompons pas, il y a une grande différence entre l'incroyant et le croyant. L'homme qui n'a pas la foi, qui n'est sans espérance, et l'homme qui a l'espérance, c'est pas toujours apparent. C'est ce qui fait justement la convoitise parfois des chrétiens en disant « mais finalement il vit bien ». Ah oui, il vit bien. C'est pas toujours, mais c'est bien réel. Dans le psaume 73, j'aimerais quand même vous dire cette petite réflexion, parce que je la trouve d'une des plus pertinentes sur le sujet que nous sommes en train de... Écoutez, je vais vous lire deux ou trois versets. Le psaume 73, le verset 16, il nous est dit ceci. « Quand j'ai réfléchi par là-dessus pour m'éclairer, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une ruine soudaine. » Le verset 25 prolonge la réflexion. Quel autre ai-je au ciel que toi, dit le croyant, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 28 maintenant. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que je peux raconter, de ce que vous pouvez raconter par le témoignage, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des talents d'écrivain, écrivez un livre. Eh oui! Mais c'est formidable, afin de raconter toutes tes merveilles, Seigneur, nous avons beaucoup plus à dire que le monde entier pourra le faire. Et pourtant, il le fait. Mais il le fait pour lui-même, il le fait pour ses idoles, il le fait pour ses dieux, il le fait pour son ego. Alors regardons la fin des choses pour en juger. Le résultat en est la preuve. Et nous en arrivons à cela. Que nous le sachions ou non, toute vie humaine fait partie d'un plan dont le facteur temps est essentiel. Voilà. Ça, c'est incontournable. Il n'y a rien à faire. Surtout quand nous savons que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Sa réalisation, eh bien, nous l'avons dans ce que nous avons lu dans les premiers versets de notre chapitre 3. Un temps pour ceci, un temps pour cela. Au temps de la vitesse, il est bon de se le rappeler. Parce qu'on passe trop vite et on ne voit rien. quand vous prenez le TGV, vous regardez le bas-côté de la voie ferrée, vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Et en avion, il n'y a plus rien du tout. C'est normal. Hein. Et plus on va vite, moins on voit. C'est une réflexion. L'existence sur la Terre est prisonnière entre deux pôles, naître et mourir. Et c'est incontournable, on ne pourra pas faire autrement. La vie est ensuite rythmée par ce refrain, un temps pour tout, un temps pour ceci, un temps pour cela. Vous l'avez vu hein, à travers les antithèses qui ont été citées tout à l'heure. Dès lors, on ne peut conclure à l'absence de signification, tout simplement, à tout ce qui se passe, et à son contraire. Tout a un sens, d'une manière ou d'une autre. Tout dans l'univers fait partie d'un plan grandiose qui dépasse infiniment notre imagination. Ce que nous avons, c'est véritablement une vision très petite des choses. Nous vivons comme à travers une vue qui passerait par un tout petit trou, et notre champ est très restreint. Mais un jour, nous verrons dans la plénitude, il n'y aura plus rien qui fera obstacle. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre. Il y a une époque, il y a un moment prévu. Pour chaque événement, c'est comme si tout avait été réglé à l'avance et ce n'est pas pour autant du fatalisme. Inch'Allah. Ce n'est pas du fatalisme, c'est plus. Chaque détail de la vie sert à un plan d'ensemble où tout ce qui nous semble hasard ou coïncidence contribue à une réalisation éternelle. Vous savez que vous faites partie d'un plan merveilleux et extraordinaire. Seigneur, merci de m'avoir fait partager et de m'inclure dans ce plan. C'est ça ce que nous devons nous dire. C'est ça ce que nous devons vivre tous les jours. On est sur terre, mais on a quelque chose, une perspective extraordinaire devant nous. L'incroyant continue à se demander à quoi sert tout cela. L'homme de foi lui répond... Et il voit un sens à chaque chose, et vivant journellement dans cette perspective, il est en paix. Même la mort du croyant, est précieuse aux yeux de Dieu. Et même notre mort, même s'il y a le premier aspect, mais d'un autre côté, il y a une dimension qui nous réjouit profondément. Et quand on parle du ciel, dans notre monde, à nous chrétiens, il nous est parlé avec des mots « allégresse », « félicité ». Joie, bonheur. Ça change tout, hein. Les autres, ils chantent pas le même refrain. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et ce qui fait que le croyant peut se réjouir de ne pas être le jouet de circonstances ou d'accidents auxquels il est totalement étranger. Nous sommes dans le plan de Dieu. Je voudrais vous le dire, vous êtes dans le plan de Dieu. Tant que vous demeurez, vous êtes des enfants de Dieu et il est notre Père. Et ça change tout. Hein. Le croyant possède une assurance intérieure, inébranlable, parce qu'il sait. Et de savoir, c'est l'essentiel. Parce qu'il sait que toute chose concourt à son bien. Dixit, l'apôtre Paul, Romains, chapitre 8, verset 24. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je reprends les choses à l'envers et je me dis, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as mis dans ton dessein et dans ton plan. Alors moi, tout ce qu'il peut m'arriver sur la terre, mais c'est entre tes mains, c'est même pas à moi de le défendre. J'ai juste à me laisser porter par la foi, à m'abandonner, en sachant que ce qu'il pourra ressortir de ce mal qui me frappe, eh bien toi, tu vas le transformer et tu vas le faire contribuer à mon école, à mon développement, à ma croissance et en bénédiction pour moi et pour les autres. Vous trouvez pas ça formidable? Ça pas l'air, hein? Mais oui, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est la vision que nous devons avoir et que nous devons entretenir. Mes frères et sœurs qui passaient par des moments difficiles, ne vous attristez pas, vous avez le Seigneur. Et il est là auprès de vous, il vous tend la main et il va vous en faire ressortir et vous ressortirez pas comme vous êtes rentré. J'ai tellement de choses à dire ce matin que je mets les mots un petit peu les uns derrière les autres et pas toujours dans la bonne direction. Vous voudrez bien m'excuser. Voilà. Je le dis au passage. Alors, nous possédons une assurance intérieure inébranlable parce que nous savons donc que toute chose concourt à notre bien et notre propre vocation est inclue dans ce plan éternel. Nous ne sommes pas seulement sauvés pour être sauvés, nous sommes sauvés aussi pour servir, glorifier et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Jérémie nous dit ces paroles, et je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Parce que je vous parle de la vie, et la vie, elle est éternelle, hein, je tiens à vous le dire. On en reparlera de l'autre côté, certainement. Jérémie nous donne une parole qui m'a marqué profondément, qui a été le point de touche de ma conversion. Jérémie 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Moi, je dis, mes frères et sœurs, qui avaient peut-être un petit peu d'opacité devant vos yeux ou un peu de brouillard en disant « Mais je ne sais pas, j'ai pas de travail, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas ceci et cela. » Mes frères et sœurs, écoutez bien, il nous est dit que Dieu vous a appelé, il vous a choisi, pas quelqu'un d'autre, c'est vous, personnellement. Et il nous dit, il te dit, parce que c'est à toi que ça s'adresse, « J'ai préparé quelque chose pour te donner un avenir et de l'espérance. » Nous devrions tous exploser de joie et d'allégresse. Un avenir et de l'espérance. Ne laissez pas la tristesse vous envahir. Ne laissez pas la tristesse vous détruire. On est les hommes les plus heureux de toute la terre. C'est pas vrai? Oui. Ah oui. C'est extraordinaire. Moi, je suis content. Hein, c'est vrai? Ça se voit pas, non? Le toit qui est désigné... Peut-être n'importe qui, celui qui croit, ça s'adresse à vous, mais ça s'adresse à tous ceux qui sont en dehors, ils ne sont malheureusement pas là pour l'entendre. Mais néanmoins, et peut-être mes frères et mes sœurs qui ont peut-être zappé sur la fréquentation des réunions, je ne juge pas, mais qui se privent de bien des choses. Parce que le vrai moment de la journée d'un dimanche, on peut faire beaucoup de choses, et je ne suis pas contre, mais le vrai moment c'est quand on entend David nous dire « Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde ». C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est ça ce qui est bon. Et les choses de la vie, eh bien, elles sont peut-être aussi à notre portée. Nous pouvons en bénéficier dans la mesure où nous remercions le Seigneur. Mais donnons la priorité à l'essentiel. Ça, c'est important. Je m'arrête. On se revoit? C'est possible? Oui. Vous savez que vous pouvez toujours suivre, hein, de toute manière. Hein. Non, parce que là, si je pars, je repars encore beaucoup plus loin. Hein. Alors... comme il y a un temps pour toute chose, il y a eu un temps pour commencer la prédication, et je voudrais simplement vous dire, et vous me comprendrez, il y a un temps aussi pour la terminer aujourd'hui, et on la continuera. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, mais soyons des chrétiens enthousiastes. Et le mot enthousiaste en grec, ça veut dire Dieu en soi, alors que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est merveilleuse. Ta parole, elle me réjouit, elle me donne de la dynamique, elle me donne, Seigneur, de la force. Et c'est vrai, Seigneur, il y a deux visions. Il y a la vision, Seigneur, qui était la mienne il y a longtemps, lorsque je ne te connaissais pas. Et je marchais, Seigneur, solitaire, je marchais dans un désert, je marchais avec des illusions et des mirages, je m'imaginais que... Et puis, un jour, tu m'as en effet rencontré sur la route. Et tu m'as, avec ton amour, avec beaucoup de grâce et d'amour, tu m'as pris de côté. Et tu m'as tout simplement, Seigneur, amené à prendre en considération que tu avais formé sur moi des projets, que tu avais mis devant moi une espérance, afin, Seigneur, que je puisse avoir la paix et que je puisse avoir de la perspective, une visibilité, Seigneur, qui n'était pas, Seigneur, une visibilité en regardant en bas, mais une visibilité en regardant en haut, ce qui m'a ouvert un champ de vision, Seigneur, comment dire, infini, éternel, Seigneur, incommensurable, c'est le ciel. Seigneur, je te demande de visiter et de bénir mes frères et mes sœurs. Je te demande de visiter, Seigneur, en effet, Père éternel, les jeunes gens qui sont là. Ils ont besoin de visibilité dans une vie, Seigneur, qui, en apparence extérieurement, eh bien, semble vraiment non seulement obscure, mais bouchée. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu parles au cœur de chacun. Et puis je te bénis aussi pour mes frères et mes sœurs qui sont âgés. Parce qu'ils ont maintenant la vie derrière eux. Et ils peuvent dire, comme David pourra le dire, « J'étais jeune et je suis maintenant devenu vieux, mais je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain. Nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. » Alors, béni soit ton nom. Nous bénissons ton nom de nous avoir donné Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour la croix. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu n'as pas été retenu dans la mort, mais tu es ressuscité. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es monté au ciel. Et tu te tiens, Seigneur, pour intercéder, Seigneur, pour les enfants de Dieu, puisque tu intercèdes pour nous. Et puis nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole ne s'arrête pas là. Elle nous dit que tu reviens bientôt pour nous prendre avec toi. Ton église, ton épouse, la fiancée, Seigneur, préparée pour que nous puissions régner pour l'éternité, et bien dans ton ciel de gloire. Merci Seigneur, parce qu'une dernière prière et une dernière reconnaissance, c'est que tu as mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Merci Jésus. Amen.